septembre 2005, les éditions françaises Alia ont publié « Toute une vie », recueil rassemblant des extraits du journal tenu par le traducteur et poète tchèque Jan Zabrana. Un aperçu des réflexions intimes et sans détour d'un homme qui avait une conscience douloureuse de son existence au cœur d'un régime politique qui, comme à tant d'autres, lui étouffa la parole. C'est en 1984, à bout de ce souffle rageur qui inspira les pointes acerbes de ses annotations quotidiennes, usées par le cancer, que disparaît Jan Zabrana à l'âge de 53 ans. Traducteur de russe et d'anglais, poète, comme nombre d'intellectuels tchèques, il passa par la case obligée des travaux manuels, car dans le mauvais jeu de la société communiste d'alors, celui qui travaille avec les mots, l'intellectuel, est bourgeois. Enfin, surtout s'il est suspect de ne pas souscrire à la cause. Nocif donc, et à rééduquer, forcément. Mais quand on sort d'une famille d'instituteurs de Moravie du Sud, qui ont en plus la mauvaise idée d'être de centre-gauche, quand on a une mère qui devient députée et se bat aux heures de crise de la fin des années 40 pour que soit maintenu le gouvernement social-démocrate sur la brèche, il ne fait pas bon grandir en Tchécoslovaquie. Arrêtée en 1949, la mère de Zabrana est condamnée à 18 ans de prison pour haute trahison. La ronde des procès politiques fabriqués a commencé. Elle en est une des premières victimes. En 1952, ce sera au tour du père de Zabrana, condamné à 10 ans ferme. Le jeune homme est à cette occasion définitivement exclu de l'université, où il avait réussi à passer quelque temps malgré tout, sautant d'une matière à l'autre, au gré des autorisations ou des rejets pour inaptitude politique à l'étude. La version française du journal de Jan Zabrana ne représente qu'un petit dixième de l'édition tchèque de quelques 1100 pages publiée par la maison d'édition pragoise Torst en 1992. C'est Patrick Orzenik, auteur notamment du livre Europeana, et Marianne Canavaggio, traductrice attitrée de l'écrivain Yachem Topol, qui se sont chargés de la traduction à quatre mains des pensées de Zabrana pendant les années qui suivirent le coup d'arrêt mis au printemps de Prague. Un choix de concision temporelle dont Patrick Orzenik s'explique dans son introduction par la volonté de garder l'unité de ton de réflexion, faisant par ailleurs sans cesse référence à la période précédant 1968.
Ils nous auront tous, ils ne sont pas pressés, ils ont le temps. Me disait hier M. J'aurais voulu lui répondre, mais non, j'ai une idée sensationnelle qui démolira tous leurs plans, vite fait, bien fait. Tu sais ce qu'on va faire? On va mourir avant qu'ils nous aient tués. Si on meurt avant qu'ils nous aient tués, ils nous auront pas, tu piges, et toc, faut pas se laisser faire.
Ne nous laissons pas leurrer par le ton quelque peu désinvolte et humoristique de cette réflexion de Zabrana. Ils, ce sont les communistes, et rien ni personne, de près ou de loin, en rapport avec eux, ne trouve grâce à ses yeux, pas même les hommes du printemps de Prague. Pour Zabrana, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, et le socialisme à visage humain n'est rien d'autre qu'une autre grotesque phrase vide de sens. Et quand bien même.
Il y a une chose que je sais depuis toujours, je le sais depuis 1948. Contre le communisme, je suis et je serai prêt à m'associer avec n'importe qui, sauf les communistes.
Cette conviction, elle semble ancrée en lui comme l'unique certitude de cette existence qui paraît si fragile et si dépourvue de contenu. Une certitude acquise tôt. Trop tôt par le jeune homme qui, entrant à peine dans l'âge adulte, voit ses parents disparaître derrière les murs des prisons communistes. Sa dépression sous-jacente, qui affleure à chaque ligne de son journal, prend une pente encore plus descendante à partir de 1969, date à laquelle commence la période dite de normalisation.
« Entrer pour la deuxième fois dans le deuxième fleuve »,
note-t-il en guise d'interjection qui se suffit à elle-même. Alors qu'il est toujours ajusteur mécanicien, puis plus tard aiguiseur dans une usine d'émaillage, Zabrana parvient à faire publier ses premières traductions en 1955, ce qui lui permettra de quitter l'atelier et de devenir traducteur professionnel de russe, puis d'anglais. Dans son journal, on peut lire cette phrase un peu potache, comme un défi à tout carcan.
Le meilleur traducteur n'est pas celui qui traduit comme il faut, mais comme il le veut.
Norbert Holup est poète et médecin, mais il a surtout préparé le site internet consacré à Jan Zabrana et mis en ligne lors de la commémoration des 20 ans de sa disparition. Nous lui avons demandé ce que lui inspirait cette phrase en particulier, dans la perspective du travail de Zabrana. Peut-on dire que ces traductions sont une œuvre en soi et quel a été son apport, Norbert Holup?
Dans son journal, cette phrase est bel et bien retirée de tout contexte, si je me souviens bien, et ne s'exprime pas plus avant à ce propos. Mais évidemment, Zabrana était un traducteur qui avait une très grande expérience. Il était très érudit et surtout un très grand travailleur qui parvenait à faire énormément de traductions. Et même si d'une certaine façon il détestait aussi un peu ce métier, il en était malgré tout extrêmement fier, en tout cas pour la majeure partie de ses traductions. Elles sont de qualité, et son apport majeur, c'est que dans les années 50 puis 60, il a littéralement bataillé pour que paraissent en Tchécoslovaquie des auteurs étrangers qui étaient et dont il estimait qu'ils seraient incontournables. Qu'il s'agisse des beatniks américains ou Sergueï Yessénine ou encore Andrei Platonov, il avait vraiment le flair pour ça et surtout il a eu l'endurance pour imposer certains auteurs dans les plans éditoriaux de certaines maisons d'édition et rédaction, puis la capacité d'en faire des traductions de qualité.
Pour misanthrope qu'il ait été, Zabrana ne vécut pas pour autant en reclus total du monde. Il entretient des liens d'amitié avec d'autres grands noms de la littérature et du monde culturel de l'époque, comme le poète et artiste Jiří Kolář, ou encore Josef Škvorecký, qu'il fréquenta à Prague au début des années 50 jusqu'à ce que celui-ci émigre. Norbert Holup.
Leur point commun, c'était sans aucun doute leur intérêt pour la littérature anglo-américaine. Jan Zabrana a toujours été un peu écartelé entre la culture russe et la civilisation anglo-américaine. Mais je crois qu'un de leurs grands points communs, c'était un regard sur la vie, réaliste et légèrement cynique. Ensuite, ils ont aussi travaillé ensemble, au niveau littéraire, sur des romans policiers. Et par la suite, ils ont entretenu une correspondance, ce qui était bien entendu compliqué, parce que Zabrana devait utiliser des services de courrier spéciaux ou devait envoyer ses lettres à une autre adresse qu'à celle de Škvorecký.
Personne n'échappe aux attaques cinglantes de Zabrana. Si les communistes ont une place de choix, ils malmènent aussi les Américains, qu'ils trouvent naïfs et bêta à souhait. Zabrana trempe sa plume dans un encrier rempli de vitriol et distribue les mauvais points au gré de son dégoût et de sa mauvaise humeur, celle issue du désespoir. Ses écrits intimes sont des paragraphes courts, acerbes, petites histoires aux ruminations sur la petite et la grande histoire, les gens et leur lâcheté grosse comme des baudruches, les médiocrités du quotidien. Autant de fragments dans lesquels il raconte, par exemple, comment telle ancienne camarade de classe qu'il ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam, fit du zèle et, parée de son devoir civique, informa les autorités concernées du profil suspect que présentait, selon elle, le traducteur. Chronique de la petitesse ordinaire. Ses réflexions sont parfois juste courtes et cinglantes, des aphorismes qui sont pourtant autant de batailles perdues. Ou encore des paroles glanées au vol, des moments de vie.
Un type dans le tram. S'ils les font aussi infectes, ces saucissons, c'est pour que les gens en achètent moins, c'est évident.
Des bouts de phrases, des invitations à lui-même, des impératifs à faire peut-être, bons à noter en tout cas, poétiques et audacieux dans leur juxtaposition, et non dénués d'une vulgarité sans phare, mais forte et poignante.
Dans le ciel, la lune, comme une vésicule enflée, enterrait discrètement son talent, comme une merde dans le sable d'une plage, en pleine nuit, se brossait l'or dans la bouche.
Zabrana ne s'est lui-même pas engagé de manière publique. Malgré sa révolte intérieure, il n'a pas pour autant été dissident au sens politique du terme. Il était déjà dissident d'une existence qu'il portait comme des vêtements trop serrés, enfermé dans une existence qui, pour lui, avait les atours d'un linceul.
Je suis allé en Russie 3 fois, et chaque fois je me suis fait voler ma casquette. Non, la 3e fois c'était un chapeau. Cela ne présente pas les Russes sous un jour favorable. Diable, ils avancent vers le communisme à pas de géant, mais le désir de casquette reste fort.
Eh bien, chapeau bas posthume à Jan Zabrana, et c'est sur son envolée douce amère et non dénuée d'humour que se clôt la rubrique littéraire de cette semaine, qui vous a été présentée par Anna Kubishta. Merci à toute l'équipe technique pour la réalisation et la mise en onde. Bon week-end.